Bonjour à toutes et à tous, au menu du MAG aujourd'hui, politique et culture. Côté culture, on va s'intéresser aux deux expos temporaires en ce moment au musée Fenaille et au musée Denis Puech. Et puis pour commencer, côté politique, on va revenir sur la passation de pouvoir hein, jeudi dernier au conseil départemental à sa tête. Jean-François Galliard, remplacé par Arnaud Vialla comme président du conseil départemental de l'Aveyron. Jean-François Galliard avait annoncé mercredi, la veille de l'élection du nouveau président, qu'il ne se représenterait pas face à Arnaud Vialla.
J'ai pris la décision de ne pas me présenter comme candidat à la présidence du département pour, à partir du constat qui est tout simple, qui est fondé d'abord sur le fait que j'ai été élu, donc je suis conseiller départemental moi-même. Donc j'aurais pu briquer la candidature. Deuxièmement, on retrouve la traditionnelle différence entre la droite et la gauche. Et troisièmement, la majorité qui est autour d'Arnaud Vialla s'est accrue. Donc j'ai décidé de me présenter dans un souci d'apaisement surtout, parce que ces guéguerres fratricides, personne ne les a comprises. Elles sont sans doute aussi quelque part l'accessoire à l'abstention qui est massive. Elle a dû y participer. Et moi, je veux apaiser ce climat-là. Voilà. Donc, j'ai décidé ce que je viens de vous dire.
Le fait que vous ne présentez pas, c'est un constat arithmétique, mathématique, ou c'est mûrement réfléchi?
Alors, c'est mûrement réfléchi avec mes équipes. Si on a vraiment réfléchi, parce qu'il y avait cette possibilité de se présenter, si vous voulez. Alors, c'est pas tellement un constat arithmétique. C'est d'abord un constat de principe, si vous voulez. Arithmétique aussi, finalement, mais c'est de principe. Il faut apaiser les choses. Il faut apaiser les choses et ne pas se présenter face à Arnaud Vialla, puisque lui, depuis le début, brigue la présidence. C'est une façon d'apaiser les choses. Les Aveyronnais ont besoin de calme. Il faut revenir à une espèce de sérénité qu'il n'a d'ailleurs jamais quittée. Hein. Nous siégerons, sans doute, on verra, mais au nom des non-inscrits. Nous serons attentifs, nous travaillerons pour le canton, nous travaillerons pour l'Aveyron si on nous en laisse la place, et c'est en toute sérénité qu'on le fera. Et on a l'impression, parce qu'il y a Karine Orcel et moi-même, nous avons l'impression, si vous voulez, d'être fidèles également à nos électeurs, parce que nos électeurs nous ont élus. C'était vraiment, vraiment, on a rencontré beaucoup de personnes, très franchement, on a fait la distribution nous-mêmes de nos propres papiers, documents. Donc on a discuté avec beaucoup de personnes, personne n'a compris la position du camp Anvers. Nous sommes arrivés en tête, puisque le binôme soutenu par Arnaud Vialla est arrivé en troisième position. Donc on a le sentiment, Karine Orcel et moi-même, d'être fidèles à nos électeurs. Vous savez, voilà. Karine et moi, nous ne voulons pas participer à cette majorité, mais ça ne veut pas dire qu'on est contre la majorité. Voilà, on examinera les dossiers, on va surtout défendre notre canton qui nous attend. Les maires ont été derrière nous, et les électeurs aussi, évidemment. Donc on doit quelque chose à nos électeurs, si vous voulez. Et donc je serai comme je suis maintenant.
Qu'est-ce que vous attendez de la présidence d'Arnaud Vialla?
Le respect de l'ouverture, si vous voulez. J'étais un homme d'ouverture, on avait apaisé le climat au sein de l'Assemblée en 4 ans et demi, elle était apaisée, tout le monde se respectait. Ma majorité, qui n'est plus la mienne maintenant, puisqu'elle a choisi de partir derrière quelqu'un d'autre, cette majorité a toujours voté les presque plus de 2000 rapports depuis 4 ans. Et j'ai du mal à comprendre d'ailleurs le fait qu'elle soit partie. Vous m'avez déjà posé la question et je ne sais pas trop y répondre, si vous voulez, puisque personne n'a quelque chose personne ne m'en veut de rien, mais malgré tout, ils s'en vont. C'est comme ça. On dit qu'on est trahi que par les siens. Ce ne sont pas les miens.
Vous avez été 4 ans et demi quasiment président du département de l'Aveyron. Qu'est-ce qui vous revient comme bon souvenir ou comme action que vous avez menée?
Eh bien, justement, si vous voulez, le fait qu'on a eu un consensus unanime de ma majorité jusqu'aux dernières décisions qui ont dû être prises, mais que je rattache plus à de la politique, malheureusement, avec un petit P qui a des avis divergents, si vous voulez. Mais je crois que c'est cette ambiance. Et le sentiment, franchement, d'avoir fait que l'Aveyron avance quand même. Parce que l'Aveyron a avancé.
Et dans vos réalisations?
Ah ben, j'espère vous parler du 90, parce que tout le monde m'a parlé du 90. Non, moi, je laisse aux électeurs et aux concitoyens en général. Non, je crois que ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est l'avancement des dossiers en termes de tout ce qui est social, si vous voulez. Voilà. Parce que je suis très attentif, voilà. Même si on dit qu'on fait pas assez, on nous reproche de faire des routes et pas assez, ça n'a rien à voir. Ces arguments sont curieux, d'ailleurs. Non, c'est l'avancée en termes de social, hein, en termes de domotique qu'on avait lancée, et les jeunes, et la culture. N'oublions pas la fibre, 20 millions d'euros. Avec un département qui sera fibré en fin d'année 2020. début d'année 2023. Oui, il y a des beaux dossiers quand même qu'on a fait. Mais on a un ratio de solvabilité qui a failli à 4 ans. On est classé dans les meilleurs, parmi les meilleurs de la strate démographique à laquelle appartient l'Aveyron. Non, on a vraiment travaillé.
Alors sinon maintenant, bon, vous êtes conseiller départemental, mais ça occupe moins que président du conseil départemental de l'Aveyron. Vous avez des envies, des choses que vous avez envie de faire
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors envie d'être utile à mon département, je vous l'ai expliqué, je vais continuer tant que je peux. Et aussi, comme j'ai du temps de libre, envie aussi de participer à ou de présider une association dans le domaine social ou culturel, ça me plairait bien, culturel aussi. Vous voyez, voilà, on peut avoir des envies de ce type-là. J'en ai des envies, on verra bien.
Donc là, vous faites acte de candidature.
Oui, en quelque sorte, avec le sourire, évidemment. Hein, voilà.
Le sourire, il était aussi sur le visage d'Arnaud Viala, hein, jeudi midi, seul candidat à la présidence du département. Il a été largement élu par 34 voix et 12 abstentions.
Je suis très heureux de la fin du processus électoral, parce qu'en définitive, cette élection a été longue, hein, entre la campagne électorale, les deux tours d'élection, et puis là, maintenant, l'attente de la désignation du président du conseil départemental. Je suis très reconnaissant, en premier lieu, comme j'ai eu l'occasion de le dire, aux Aveyronnais, qui ont soutenu et validé le projet de l'Aveyron pour tous, et évidemment, à mes collègues qui, ce matin, ont transformé l'essai et en fait fait ce que leurs électeurs ont désiré qu'ils fassent, en permettant à notre équipe d'accéder à la gouvernance du conseil départemental et de mettre en œuvre le projet.
Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être élu président du conseil départemental de l'Aveyron ?
C'était pas pour moi un objectif prioritaire. Ce qui est pour moi une satisfaction ce matin, c'est de voir qu'une équipe s'est constituée, que nous avons écrit un beau projet et que nous allons maintenant pouvoir passer aux travaux pratiques. Je suis très enthousiaste en fait, très déterminé, très enthousiaste. Notre projet tout entier est placé sous le sceau de la nouveauté. Il n'est bien sûr pas question de détruire ce qui a été fait, mais nous voulons donner un élan neuf et je pense une vitesse supérieure au département de l'Aveyron, parce que c'est le moment, parce que nos concitoyens le désirent et parce que c'est sur ça que nous avons fondé toute notre dynamique. Et on va effectivement secouer beaucoup de domaines de façon à apporter du mieux.
Dans ce mouvement que vous souhaitez lancer autour de la modernité, notamment, puis de la vitesse, vous avez parlé de secouer, ça va être quoi un petit peu les priorités, les premières choses ?
Alors, on a une première étape à franchir là, qui est l'organisation de la gouvernance au niveau des élus et puis de la gouvernance au niveau des collaborateurs, parce que vous le savez certainement, ici, la plupart des grands directeurs sont en fin de parcours, donc il y a aussi un renouveau à assurer, une réorganisation des services. Ça, je veux que ce soit le plus rapide et le plus efficace possible, parce que c'est pas le cœur du projet. Et à l'issue de cette première étape, dont j'espère qu'elle sera bouclée fin juillet, on va démarrer simultanément plusieurs chantiers dans plusieurs domaines, parce qu'on ne va pas faire un après l'autre. Il y a des dossiers qu'on va faire passer en priorité, comme la refonte des politiques d'attractivité, avec beaucoup d'actions nouvelles qu'on veut mettre en œuvre dès la fin du mois de juillet. J'espère pouvoir présenter un rapport dans ce sens à l'Assemblée départementale. Il y a également la prise de contact urgente avec des collectivités partenaires. Je cite volontiers Rodez et l'agglomération ruthénoise sur des dossiers structurants sur lesquels je veux que nous puissions travailler ensemble. Il y a des prises de contact au national sur la question des services aux populations et sur la question des grandes infrastructures. Donc le mois de juillet sera pas actif, il sera hyper actif.
Un mot sur une des nouveautés que vous avez annoncé, la création d'une assemblée départementale de la société civile présidée par Jean-Claude Luche.
C'est ce que nous avions baptisé dans le projet, et qui d'ailleurs, cette appellation reste d'actualité, le Conseil économique, social et environnemental départemental. C'est une assemblée composée de divers collèges représentatifs d'Aveyronnais, particulièrement emblématiques dans un domaine d'activité, des entrepreneurs aveyronnais expatriés du département, qui vont concourir à une vision stratégique pour le département et nous amener aussi leurs connaissances et leurs réseaux. Et on va le faire probablement en s'associant à des départements qui l'ont déjà fait, en allant voir. Je pense qu'il y a deux départements en France qui ont fait ça. On va aller voir comment ils l'ont monté et puis faire notre propre feuille de route.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux Aveyronnais en ce premier jour de votre présidence, votre message ?
J'ai envie de leur dire merci et comptez sur nous, on fonce.
Bah nous aussi. Allez, on s'intéresse maintenant aux deux expos temporaires en ce moment au musée Fenaille, au musée Denis Puech. Au musée Denis Puech, c'est l'artiste toulousain Michel Bail qui s'expose sous différentes formes.
Je fais du dessin, de la peinture, de la musique contemporaine aussi, voilà. Pour moi, il faut faire la différence aussi entre art et culture. Pour moi, l'art, c'est faire du nouveau, à tout prix, quoi. Ceux qui font de l'art à papa, c'est comme s'ils interprétaient un morceau de Jean-Sébastien Bach, quoi, voilà. J'ai toujours dessiné enfant, et j'avais un grand-père qui était soliste d'opéra et qui m'a appris à dessiner, mais à un moment donné, avec ma mère qui était infirmière radiologue, j'ai découvert le monde du corps, de la maladie, et à partir de gravures de radiographie du corps, j'ai commencé à faire à les graver et j'ai créé un simulacre scientifique que j'appelais psychophysiographie, voilà. C'était dans les années 60 et puis bon, j'ai fait beaucoup d'autres choses en même temps, je faisais de la peinture abstraite à l'époque, voilà. Donc disons qu'ici, c'est un peu comme une rétrospective, il y a des œuvres qui démarrent de 65 jusqu'à nos jours, quoi. Aujourd'hui, je fais des visages qui sont fragmentés et intervertis pour mieux rentrer dans la peinture, voilà. Il n'y a pas de message, je ne fais que poser des questions. Il y a des artistes qui donnent des réponses, mais moi, c'est des questions, voilà.
C'est quoi les questions que vous posez ?
Ben, la question, disons, pour poser des questions, il faut prendre un grand recul avec tout, quoi, et le questionnement, c'est le questionnement de l'être humain, quoi, les questions habituelles, où allons-nous, que faisons-nous, etc. La sculpture, je lisais l'autre jour une phrase de Picasso, il disait, c'est faire de la sculpture, c'est comprendre sa peinture, voilà. Il faisait de la sculpture, lui, qui donnait la solution de sa peinture, finalement. Parce que la sculpture, c'est l'espace, et Picasso, justement, c'est le premier qui a fait des sculptures avec des ouvertures dans les sculptures, ça n'existait pas avant. De toutes les époques, la sculpture a été faite à partir d'un tronc, d'un bloc, et lui, il a commencé à y introduire l'espace dedans. Et mes sculptures, que je fais, qu'on peut voir là, dans les jardins de Rodez, et un peu dans la ville, elles sont faites à partir d'un vide.
En avant-première, la psychophysiographie, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ?
C'est la relation entre le corps et l'esprit traduite par les moyens graphiques, voilà.
Ah bah ça mérite d'être clair.
C'est clair, absolument clair.
Autre question là, à l'occasion de cette exposition qui vous est consacrée ici à Rodez. On apprend, enfin j'apprends que Rodez a été à un moment donné un lieu de culture relativement important.
Ah ben oui, c'est un lieu marginal complet. Tous les artistes impossibles à exposer, ils sont là. Et c'est des bons quand même. Il y avait René Durand, il y a Jaume Privat, Gérard Marty, Jean-Luc Faux, etc. Il y a de bons artistes qui sont complètement en dehors de l'histoire de l'art, si on peut dire, et de l'art contemporain ou content pour tout, comme on voudra. Mais ces artistes, il y a un pôle ici à Rodez qui est fort.
Un dernier mot, cette exposition, la première chose qu'on voit au musée Denis Puech. Alors qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? C'est pas du vitrail, c'est les peintures sur la façade du musée.
Ce sont des dessins qui sont fragmentés et que j'ai travaillé sur Photoshop et agrandi, et ils sont sur les verrières à 2,40 m de haut, voilà.
Fragmentés, c'est-à-dire ?
Ce sont des visages, je fais des visages très expressionnistes, je les coupe en lamelles et j'intervertis les lamelles. Et ça fait qu'on retrouve quand même le visage, mais on n'est pas victime de ce que représente le visage. On voit plutôt de la peinture. On rentre dans la peinture, si on peut dire, quoi. Disons que le dessin du visage n'est pas un obstacle pour rentrer dans la peinture, voilà. Il faut venir voir.
Et venir au musée Denis Puech jusqu'au 19 septembre. Ou bien aller aussi au jardin du Foirail où Michel Bail a réalisé une œuvre éphémère à voir encore quelques semaines. Du côté du musée Fenaille, c'est jusqu'au 17 octobre pour voir l'exposition Idole, l'art des Cyclades et de l'Anatolie à l'âge de bronze. Une expo en partenariat avec le musée du Louvre, dont Ludovic Laugier, conservateur du département des antiquités grecques, étrusques et romaines, et puis Vincent Blanchard, conservateur en chef du département des antiquités orientales du musée parisien, ont été les organisateurs.
Cette exposition est faite à partir de collections prestigieuses du musée du Louvre, notamment une très belle collection d'art cycladique qui forme vraiment un ensemble exceptionnel dans les collections occidentales, et aussi des idoles, une collection d'idoles anatoliennes qui ne sont plus présentées au public depuis très longtemps et qui sont l'occasion donc de les revoir et en plus confrontées aux idoles cycladiques. Donc là, pour la première fois en plus, on s'intéresse aux échanges culturels dans cette zone qui est le point de contact entre l'Europe et l'Orient, à savoir l'ouest de la Turquie et l'est de la Grèce.
Ce qui est intéressant, c'est de faire ces rapprochements entre les idoles cycladiques qui sont assez connues et les idoles anatoliennes qui le sont moins, mais de pousser aussi la logique plus loin dans le temps, avant comme après. Donc c'était intéressant de montrer des statuettes néolithiques du 7e, du 6e millénaire avant Jésus-Christ, parfois même plus anciennes, pour montrer que l'âge du bronze, ça ne part pas de rien. Il y a d'abord des productions différentes, beaucoup plus en chair, beaucoup plus en forme, mais dont la silhouette sera reprise par la suite sous une forme plus stylisée. Donc nous avons aussi choisi de remonter un peu dans le temps pour donner une sorte de profondeur de champ aux propos. De la même manière, c'était intéressant de regarder la fortune de ces œuvres à l'époque moderne, comment au XIXe siècle on ne les comprend pas, comment on les interprète mal, comment on les trouve laides, repoussantes, affreuses, ridicules, au XIXe siècle en plein académisme, quand il faut absolument adorer Raphaël, Michel-Ange, la Vénus Médicis, le Laocoon ou n'importe quelle œuvre classique dite belle, ressemblante, c'est la mimésis. Mais on montre aussi comment au début du XXe siècle, les avant-gardes qui s'intéressent à ce qu'on appelle les arts primitifs, entre guillemets, autrement dit les arts d'Asie du Sud-Est, de Précolombie, d'Afrique, d'Océanie, mais aussi les arts les plus anciens du Moyen-Orient ou du monde égéen, comment ces arts très anciens disent quelque chose d'important. Donc les artistes des avant-gardes du début du XXe siècle, Picasso, Epstein, Brancusi, Henri Moore, s'intéressent à ces formes parce qu'elles sont essentielles. Ils l'écrivent, ils disent « mais pour nous, une statue africaine vaut autant qu'une statue viking, qu'une statuette cycladique ». Donc ils retiennent l'idée et ils en font quelque chose. Donc ça a provoqué deux phénomènes. Comme ces artistes sont devenus fondamentalement prescripteurs pour le goût de la société moderne, eh bien leur intérêt pour l'art cycladique a rendu les œuvres cycladiques qu'on trouvait laides et mal faites belles et intéressantes. Vous voyez comment on change un regard. Ces œuvres n'ont pas toujours été admirées. C'est grâce à Picasso qu'on les aime, entre autres. Picasso qui avait une idole violon dans sa collection cycladique. Et d'un autre côté, ces œuvres ont nourri leur art, parfois directement, parfois indirectement. Il y en a qui ont regardé très près, donc on voit très bien le rapport. Il y en a d'autres qui ont gardé l'esprit. Et dans l'exposition, justement, on montre des œuvres de Brancusi, de Giacometti, de Harpe, de Brassailles, pour montrer ces rapports entre un art très ancien de l'âge du bronze, du 3e millénaire avant Jésus-Christ, et l'art du 20e siècle.
Alors dans cette exposition, vous l'avez dit, vous nous faites remonter le temps. On commence le plus ancien, la période, ça commence quand ?
Alors en fait, les pièces les plus anciennes de l'exposition datent du 7e millénaire avant Jésus-Christ, enfin fin du 7e, début du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Donc on est autour de 6000, 5500 avant Jésus-Christ. Donc nous sommes au néolithique. Le moment où les communautés humaines se sédentarisent, créent leur premier village, se lancent dans l'agriculture et l'élevage, et accompagnant donc cette nouvelle société agraire et sédentaire, eh bien, on a des productions artistiques, et parmi les plus célèbres d'entre elles, ce sont des figurines féminines en argile ou en pierre, plutôt bien en chair, aux formes opulentes, qui évoquent la fécondité, la maternité, et donc sont placées dans la maison, à côté du foyer par exemple, ou même dans des silos à grains parfois, et aussi parfois dans des tombes, qui finalement accompagnent la vie quotidienne de ces communautés. Alors, on y voit le mythe de la déesse mère, mais bien entendu, on est sur des communautés qui n'ont pas encore l'écriture, qui sont pas encore instituées en état. Donc on est loin des panthéons de l'Antiquité. Donc il faut pas y voir des divinités. Mais certes, elles ont un rôle symbolique fort pour la communauté, incontestablement. Mais ça peut être des figures d'ancêtres, des figures protectrices des femmes pendant les accouchements, des esprits protecteurs du foyer, des allégories de la communauté. Enfin, en tout cas, quelque chose qui symboliquement est suffisamment fort pour être représenté. Et ce sont surtout des femmes. Il y a des figurines masculines, mais souvent beaucoup plus schématiques. Les figurines les plus fascinantes sont ces figurines féminines qu'on présente dans l'exposition. On en présente en terre cuite et également en pierre. La plus belle d'entre elles étant cette statuette prêtée par les musées royaux de Bruxelles, un prêt exceptionnel pour l'une des plus belles statuettes néolithiques qui existent encore aujourd'hui.
Et les plus récentes des pièces qui sont, à part les œuvres contemporaines, ça, c'est quand ?
Vers 2000 avant Jésus-Christ.
C'est quoi, 4000 ans d'histoire ?
Voilà, c'est ça.
Et alors là, on ne parle pas de civilisation, mais on parle quoi, d'une culture commune, ou c'est juste le point commun, c'est la géographie ?
En fait, ce sont des cultures qui sont voisines, alors certes, on parle de centaines de kilomètres, etc., mais qui ont des rapports entre elles, alors plus ou moins épisodiques, mais ce qui fait que certes, ces cultures sont identifiables, mais qu'elles partagent quelques traits communs parce qu'elles commercent, et a fortiori, surtout à partir de 3000 avant Jésus-Christ, et vraiment la fin donc de notre période entre 3000 et 2000, là se développent des réseaux d'échanges entre les élites naissantes de ces premières villes, de ces premières chefferies importantes, où les élites cherchent à créer des objets de prestige et donc échangent du métal. Et à cette occasion, elles font du commerce. Et donc, accompagnant ce commerce, il y a des échanges culturels parce que on veut copier des objets qui viennent d'arriver, on en voit quand on va là-bas, enfin, et progressivement, donc on a des formes qui se ressemblent parce qu'il y a des échanges, même si le cœur de la culture n'est pas changé pour autant.
Vous avez parlé, on avait parlé d'artistes du XXe siècle que ces pièces avaient inspirées. Pour nous, on peut regarder ça comme des œuvres d'art, des objets d'art. Est-ce que ça en est ?
Ce sont des objets d'art. Pour nous, surtout depuis que les artistes du début du XXe siècle les ont considérés comme tels. Et d'ailleurs, c'est très frappant, les statuettes cycladiques qui sont sur la pointe des pieds et qui ne tiennent pas toutes seules comme ça, on les présente à la verticale dans les musées, alors que les archéologues s'interrogent et on pense que la plupart du temps, elles étaient peut-être tenues à la main ou déposées dans des formes de sanctuaires ou dans les tombes et qu'elles étaient soit dans la main, soit posées à l'horizontale. Vous voyez, aujourd'hui, elles sont devenues des œuvres de contemplation, et pourquoi pas, on a tout à fait le droit de se réjouir de les voir et d'apprécier l'harmonie de leurs formes, la justesse de leurs proportions. Mais un des points de l'exposition, c'est de montrer que ça, c'est notre regard. On a présenté quelques contextes pour rendre sensible le fait qu'elles pouvaient être déposées dans des tombes avec d'autres objets, avec des vases, des céramiques, des objets en métal, des pointes de lance, des lames de rasoir, ce qu'on dépose généralement dans une tombe. Donc ce sont deux versants, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est le contexte archéologique d'un objet, qu'est-ce que c'est que le contexte d'une civilisation. Ça fait partie de notre travail dans les musées d'expliquer ça. Ça n'empêche pas la contemplation. Peut-être la richesse de l'exposition, c'est que comme il y a ce regard des artistes du XXe siècle, c'est assez cohérent, c'est d'autant plus justifié de les représenter ou de les présenter plutôt à la verticale comme des objets de contemplation, parce que c'est ce que les artistes ont regardé.
Alors cette exposition, c'est une majorité de pièces qui sont venues du musée du Louvre, pour lequel vous travaillez tous les deux. Il y a aussi des pièces qui viennent d'autres musées en Europe. Est-ce que vous-même, vous avez fait des découvertes à l'occasion du montage de cette exposition, des pièces que vous aviez jamais vues ?
Mais oui. Alors par exemple, en posant des questions au musée de Saint-Germain-en-Laye, où se trouvent les archives d'Olivier Raillet, qui est un archéologue très talentueux du XIXe siècle, qui a offert la tête de Kéros, qui est un des chefs-d'œuvre de l'exposition, au musée du Louvre. En posant des questions à ce musée, parce qu'ils ont les archives de cet archéologue, eh bien, on n'y a pas trouvé les brouillons de conférences qu'on cherchait. Nous cherchions des brouillons de conférences qui disaient peut-être ces œuvres sont comme ci ou comme ça. En revanche, nos collègues nous ont signalé un carnet de voyage. Et comme c'était pendant le Covid, eh bien, on a échangé par photo. Et à un moment donné, on a dit, oulala, ça c'est très intéressant. Parce qu'il y avait le premier dessin de la tête de Kéros, griffonné assez précisément, d'ailleurs je ne devrais pas dire griffonné, en 1871-72. C'est le premier témoignage de cette tête qu'Olivier Raillet a acquise dans les Cyclades pour l'offrir au Louvre, et c'est aujourd'hui l'œuvre la plus emblématique de nos collections. Et ça, c'est une parfaite découverte. Mais il y a trois mois, je n'imaginais pas l'existence de ce dessin qui, en plus, apporte toute une série d'indications de précision historique. Mais avec Vincent, on a regardé, il va vous en parler, des gouaches de Zadkine qu'on ne connaissait pas.
Et effectivement, lorsque, en fait, c'est en discutant avec les autres musées que on découvre justement ces objets auxquels on ne pensait pas, mais qui vont enrichir notre propos. Et les gouaches de Zadkine, ce qui était intéressant, c'était que ça nous permettait, en plus d'évoquer le travail d'un autre artiste, Modigliani, avec qui il était en contact. Nous avons ici des gouaches d'Ossip Zadkine, mais qui sont faites sciemment en pensant à l'art de son ami Modigliani. Et donc, c'est l'occasion justement de montrer finalement des œuvres peu connues, que les gens ne regardent pas forcément et qui parfois ne sont pas exposées. Ce sont des gouaches, ce sont des œuvres d'art graphique, elles ne sont pas en permanence dans le musée. Et donc l'exposition, c'est toujours l'occasion de redécouvrir ce genre d'œuvres qui permettent de compléter la vue qu'on a d'un artiste ou d'un courant culturel ou d'une civilisation.
Idole, l'art des Cyclades et de l'Anatolie à l'âge de bronze au musée Fenaille. C'est donc à voir au musée Fenaille jusqu'au 17 octobre. C'est déjà la fin du MAG pour aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous.